on peut pas vendre ni mettre sur le marché des produits où, par exemple, il y a un ingrédient qui est hyper controversé, qui a été retiré du marché, nous on va pas le vendre. C'est pas le but. Un produit où la bonne contenance, elle est pas affichée, ça, c'est pas possible non plus. Un produit qui est périmé avec une date. Voilà. Tous les produits que la marque ne mettrait pas elle-même sur le marché, on les vend pas.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Savez-vous ce qu'il advient des tonnes de produits de beauté invendus chaque année? Eh bien, la plupart du temps, ils sont immédiatement détruits ou bien stockés jusqu'à leur date limite de péremption avant d'être brûlés. Et je ne vous parle même pas des produits moches, vous savez, ceux dont l'étiquetage n'est pas centré au millimètre près au sortir de l'usine. Eux n'atteignent même pas les linéaires, alors que le produit à l'intérieur est tout à fait utilisable. Vous trouvez ça normal? Coucou la loi AGEC. Désormais, les entreprises cosmétiques doivent, enfin devraient, trouver des débouchés à leurs invendus autant qu'à leurs produits moches. Ça tombe bien, aujourd'hui, je reçois Noémie Arnal, qui a cofondé Grise. Non, rien à voir avec le film des 80s. Grise, ça s'écrit G-R-2-E-Z, et c'est une plateforme qu'elle a lancée il y a quelques mois pour donner aux entreprises cosmétiques la possibilité de vendre leurs invendus et leurs produits avec micro-défauts à prix cassé et ou d'en faire don à des associations. Si vous êtes une entreprise très petite ou très grande, cette solution pourrait sérieusement vous intéresser. Et si vous êtes consommateur, eh bien, c'est l'occasion de faire de très bonnes affaires. By the way, Noël est dans quelques jours. Moins de déchets, moins de destruction, moins d'émissions de CO2, c'est win-win pour tout le monde, y compris pour la planète. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Noémie.
Bonjour.
Pourrais-tu te présenter?
Je m'appelle Noémie Arnal, j'ai 27 ans et je suis la cofondatrice de Grise et je suis originaire du sud de la France.
Ok. Et Grise, alors tu l'as co-créée, je crois?
Oui, je l'ai créée avec mon associé Logan, qui est un ami d'enfance. D'ailleurs, ouais. On s'est rencontrés aussi à Aix sur les bancs du lycée.
D'accord. Et alors, je crois que tu connais bien l'industrie cosmétique.
Oui, j'ai fait une école d'ingénieur en chimie, puis après je suis partie me spécialiser en cosmétique au Canada. Et j'ai évolué du coup sur différentes chaînes de valeur du produit. J'ai travaillé dans l'industrie de la cosmétique pendant plusieurs années.
D'accord, donc plutôt côté
formulation. Ingrédients, ouais. Qualité, réglementaire, prod,
d'accord.
Innovation, voilà.
Rien n'a de secret pour toi, donc.
Sinon encore beaucoup, mais...
Ouais. Et quel a été l'élément déclencheur pour la création du site Grise?
Alors, ça a été lors de mon dernier poste que j'occupais. J'étais du coup directrice de laboratoire et en même temps, je m'occupais de la partie logistique en transition. Et c'est là où le marketing me demandait toujours de créer des innovations produits. Et en même temps, je voyais aussi les stocks qui s'accumulaient à chaque inventaire où on nous restait beaucoup, beaucoup de produits.
Ouais.
Et moi, en tant que consommatrice, je pense que j'étais pas la seule à être abonnée à toutes les box beauté, à être fan de tous les produits qui sortaient. Et en fait, je débordais et mes placards et mes stocks de logistique et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose de plus éthique pour la fin de vie de nos produits?
Ouais.
Donc c'est là que c'est né.
C'est là que c'est né. Et alors, quel constat en termes de déchets cosmétiques on peut faire aujourd'hui?
Aujourd'hui, on évoque souvent les 4 tonnes de produits cosmétiques qui sont jetés par jour et qu'une femme sur deux ne termine pas un produit cosmétique. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce paradoxe entre le surplus, mais il y a aussi ce paradoxe entre le besoin, parce qu'on arrive à un moment où de plus en plus de personnes manquent de pouvoir d'achat et se privent de produits d'hygiène. Et on est presque à une personne sur trois qui ne peut pas s'acheter de produits cosmétiques. Donc, c'était vraiment là où je voulais faire en fait, le pont entre le surplus et le besoin.
Et qu'est-ce qui se passe en fait pour des produits qui sont, comme tu disais, stockés et qui ne trouvent pas preneur?
Aujourd'hui, ils étaient principalement détruits. Je prends le cas de figure où vous faites une ligne de conditionnement d'une crème et en fait, l'étiquette, elle est mal collée, ou alors un tube, la soudure est pas droite, ou alors le fournisseur, il nous envoie des palettes et le carton est un peu écorné. Tous ces produits-là, on les met de côté. Et pour une boîte, quand on travaille, on les met de côté. On vend que ce qui sont beaux. Et quand on les laisse de côté, à la fin du temps, soit on doit les détruire, soit on les donne en interne, ou alors... on fait des dons quand c'est possible, mais souvent, ce n'est pas notre priorité en tant que marque. On vend l'innovation et pas forcément ouais. les produits qui restent.
Ouais, ok. Et qu'est-ce que la loi AGEC, qui date de 2022, change pour le secteur?
Bah, ça change beaucoup de choses. Quand j'ai entendu parler de la loi AGEC, ça m'a fait un peu écho à la loi Garot avec l'alimentaire, avec l'initiative Too Good To Go. Ouais. Et je me suis dit, bah, c'est, aujourd'hui, il y a la loi AGEC, il y avait beaucoup d'offres sur la technologie, Vinted, Backmarket ou autre, qui étaient et qui répondaient à cette problématique. Et je me suis dit, bah, la cosmétique, c'est quand même un secteur assez particulier, avec des codes particuliers et aussi des produits aussi qui sont périmables, des produits qui touchent à la santé publique. Donc, il fallait aussi une innovation particulière. Et la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage de l'économie circulaire, vise à interdire les industriels à détruire leurs invendus.
Ok.
Donc, c'est pour répondre à cette loi qui a été promulguée en 2022 que, du coup, Grise est née.
Ok, d'accord. Alors, quel est le concept de Grise?
Alors, Grise, ça part de... d'être une solution, en fait, pour tout produit fabriqué, il faut trouver une finalité. Que votre produit soit abîmé, invendu, en date courte ou périmé, notre idée, c'est de leur proposer, en fait, trois voies de valorisation. Soit la vente, pour les produits qui sont encore neufs et vendables, soit le don, pareil, pour les produits qui sont encore neufs, vendables et donnables. Et le troisième, c'est le recyclage, c'est comment est-ce qu'on peut créer des filières de tri, au-delà simplement du packaging, mais faire du tri contenant pour les produits qui sont périmés, non vendables, non donnables.
Ok. Et comment ça fonctionne pour chaque partie? Parce que j'imagine que tu as un côté à la fois B2B et B2C.
Oui, c'est pour ça que du coup, c'est bien qu'on soit deux. Moi, je suis plus pour la partie B2B parce que j'ai quand même beaucoup de connaissances au niveau des marques et de l'industrie de la cosmétique et je sais comment ça fonctionne dans les usines. Et mon associé, Logan, est beaucoup plus sur la partie B2C parce qu'il travaille chez un distributeur et plutôt geek, on va dire. C'est lui qui s'occupe de la partie réseaux sociaux, internet et sites. Et donc, notre première démarche a été vraiment pendant 6 mois de faire une étude de marché. Ouais. Donc d'aller contacter plus d'une cinquantaine de marques, groupes, TPE, start-up, et de voir si le besoin il existait vraiment et on n'allait pas créer une solution qui répondait à rien.
Ouais, c'est ça.
Donc notre première démarche, c'est pour valoriser des produits, il faut d'abord identifier les sources et catégoriser qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Et la deuxième partie, ça a été comment est-ce que ça se matérialise? Donc la partie site internet où les consommateurs peuvent acheter leurs produits. La partie don, donc se rapprocher aussi d'associations. Qu'est-ce qu'elles veulent recevoir? Combien elles peuvent en recevoir? Et la partie recyclage, identifier des filières, créer des filières, travailler en R&D aussi pour développer aussi des filières.
Ah oui, carrément.
Ouais. Ouais. C'est sur ces trois points qu'on travaille.
D'accord. Et donc côté entreprise, comment ça se passe en fait? Est-ce qu'ils prennent un abonnement?
Alors nous, on se définit comme un partenaire de vie, vu qu'au final, c'est des produits qui vont pas être tout au long. En fait, on n'a pas on va dire un abonnement, une récurrence à vouloir vendre leur produit. Ouais. Notre but, c'est plutôt carrément de se dire, vous avez eu un problème sur cette prod-là, n'importe quoi, les étiquettes ont été mal collées, on va faire une opération. L'idée, c'est qu'à la fin de l'opération, tous les produits soient écoulés. Ouais. Si les produits sont pas tous écoulés, on réitère l'opération. Et après, jusqu'à ce que les produits soient écoulés, parce qu'on parle quand même des fois de millions, milliers d'unités.
Ouais, c'est ça.
Aujourd'hui, on a beaucoup plus de produits encore que de clients qui peuvent acheter, tellement qu'il y a beaucoup d'invendus dans cette catégorie. Donc en fait, non, notre première démarche, c'est les marques qui nous contactent, elles remplissent un formulaire avec l'inventaire en fait, de leurs produits, les caractéristiques et le souhait de revalorisation. Parce qu'on n'est pas là sur être une mise en lumière de produits qui sont neufs, sans défaut.
Ouais,
nous, on accepte, comme on disait, que les dates courtes, les packaging abîmés, les éditions limitées ou les surstocks.
Ok, d'accord.
Et dans ce tableau-là, ils ont aussi le choix de choisir entre je veux faire que de la vente, je veux faire de la vente et du don, ou je veux faire que du recyclage.
Ok.
Et donc après, c'est eux qui déterminent les prix. Ils nous envoient leur tableau avec leur matrice de photos et on organise la vente événementielle.
D'accord.
Qui dure que pendant une semaine.
Ok. Ah oui.
Ouais.
C'est un délai très court. Ouais.
L'idée, c'est de se dire, vu qu'on a des produits qui sont périmables, de créer une forme d'ordre d'attente et pas de laisser des produits
bien sûr.
Trop longs. Et c'est plus facile aussi pour la marque parce qu'elle nous fait qu'un envoi.
Ouais.
Et nous, après, on gère aussi en interne tout ce qui va être colis.
Ok, oui, d'accord.
Parce que pas en modèle dropshipping.
Oh ouais, d'accord, ok. Et effectivement, c'est pas l'entreprise qui se charge de l'envoi aux différents consommateurs. C'est vous qui recevez la palette, on va dire, et qui ensuite dispatchez entre les différents consommateurs intéressés.
Ouais, complètement. Bah, c'est en fait, ça nous a permis de comprendre en fait aussi que bah, les invendus c'était une charge et mine de rien, ils n'avaient pas forcément le temps à ni la personne à allouer pour gérer des commandes que nous on leur enverrait en one to one. Et même pour le consommateur, pour avoir commandé sur VIP ou autre, c'est plus agréable d'avoir un colis avec tous les articles. Donc, ce qu'on fait, c'est que vu que nos ventes elles sont du mardi au mardi, les mardis d'après, on clôture les ventes et on fait les appels de tous les produits qu'on réceptionne chez nous et on fait un envoi par semaine.
Ok, d'accord.
Oh, ouais. Comme ça, c'est plus facile pour la logistique. Elle nous envoie des palettes et on gère nous.
Et c'est quoi le modèle économique du coup ?
Alors nous, on se rémunère sur la commission.
D'accord.
Donc la commission des produits qui sont affichés sur Grise, on prend une commission fixe pour les marques. Donc en fait, elles sont libres aussi d'établir les prix en fonction de notre commission parce qu'elle est affichée.
Ouais, d'accord.
Et pour le modèle du recyclage, pour l'instant, on est apporteur d'affaires. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore créé des filières, on est juste en R&D sur les filières qu'on développe.
D'accord.
On est apporteur d'affaires pour des partenaires. On met en visibilité aussi des gens qui sont pas forcément visibles dans le domaine de la cosmétique aujourd'hui.
Ouais, d'accord. Ok. Et j'imagine qu'il y a des produits que vous refusez.
Oui, comme j'ai dit, tous les produits qui sont neufs sans défaut, déjà on les refuse. Et après, les produits qui sont pas compatibles de filière, par exemple, je pense aux crèmes. Aujourd'hui, on est en R&D, on n'arrive ni à les recycler, à part leur packaging, mais le contenu, il y a trop de variabilité formule pour qu'on puisse trouver une filière adaptée. Ceux-là, on peut pas les recycler. Donc, pour l'instant, ce qu'on propose aux marques, c'est genre, on étudie et après, on voit s'il y a un truc, mais on s'engage pas à les revaloriser si on sait pas.
Si on ne sait pas le faire. D'accord. Et construire une filière de recyclage, ça doit être quand même un sacré challenge.
Ouais, c'est carrément un sacré challenge, mais je trouve aussi que c'était là la partie plutôt innovante en fait, du projet, en disant qu'on était sur une globalité de prise en compte de revalorisation, parce que chaque produit doit avoir une problématique de revalorisation, et que la vente était un moyen visible et gros, on va dire, mais comme un entonnoir. Et l'idée, c'était de mutualiser les offres. Et parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a fait une grosse recherche sur la partie recyclage du packaging.
Oui.
Mais il y a beaucoup encore de packaging ou de produits qui sont jetés complètement remplis, que les consommateurs jettent naturellement à la poubelle ménagère parce qu'ils sont remplis. Et je trouve ça.
Ouais, c'est aberrant.
Je trouve ça dommage.
Ouais, carrément.
Et je me dis qu'on peut faire bouger les choses aussi. Pour avoir rencontré plusieurs marques, il y avait beaucoup de marques aussi qui avaient des produits remplis, qui recevaient des pharmacies chez elles. Et en fait, ils étaient détruits directement. Donc,
C'est ça. Ouais. Et je crois que vous faites aussi du don.
Oui. Alors là, le don, c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire, après qu'on ait écoulé des gros volumes sur la plateforme, on propose à la marque en fait, de faire du don à des associations. Donc, c'est des volumes qui sont plus petits. L'idée, c'était de pas... Parce que la loi AGEC propose de faire des dons à des associations. Mais moi, j'ai vu ça vraiment comme déplacer le problème. C'est-à-dire, on risquait d'engorger les associations qui n'avaient pas forcément la logistique en interne pour gérer le flux des produits qui allaient à leur arriver. Donc en fait, on écoule des gros produits et après on a recensé plein d'associations locales et nationales.
Ouais.
Et en fait, on leur dit, on a tel produit avec telle quantité, est-ce que ça vous intéresse ? Et à ce moment-là, du coup, on organise des flux en fait, entre la marque et les associations.
Ah ouais, bien.
Et on fait aussi des paniers avec l'association Unisop, je sais pas si. Où là, on va mutualiser les produits, donc des produits hygiène bébé, hygiène intime, des shampoings. L'idée, c'est de mutualiser en fait, les dons pour que les personnes qui les reçoivent, au moins, totalité.
Et puis surtout des produits
qui correspondent
à leurs besoins, quoi.
Oui, l'idée, c'est pas de donner des shampoings pour cheveux blonds alors à des femmes qui ont des cheveux crépus. C'était aussi, quand on parle de don, il faut aussi penser à la personne qui le reçoit.
Oui,
on n'est pas là simplement dans un geste de je me débarrasse. Voilà. Moi, je voulais le rendre un peu plus humain et donc.
Qui a un vrai sens derrière, quoi.
Ouais.
Une vraie utilité. Et qu'est-ce qu'il arrive aux produits ? Parce que j'imagine que ça peut arriver que certains produits ne trouvent pas preneur, quoi.
C'est pour ça que du coup on avait mis en place l'option don aussi, où là on fait le recensement forcément des assos qui peuvent être intéressés. Et sinon on réitère aussi des opérations. Après, le but c'est de se faire de plus en plus connaître, donc c'est de payer aussi des postes sponsors pour faire venir du trafic sur le site, pour faire découvrir la marque et parler surtout du fait que la marque elle a des engagements au début de sa filière et que c'est important qu'elle en ait aussi à la fin. Donc c'est un modèle un peu gagnant-gagnant pour elle aussi. de communiquer là-dessus.
Bien sûr, bien sûr. Et j'imagine aussi que, bien que voilà, certains produits aient des défauts, etc., il y a quand même certaines règles à respecter.
Oui. On peut pas vendre ni mettre sur le marché des produits où, par exemple, il y a un ingrédient qui est hyper controversé, qui a été retiré du marché. Nous, on va pas le vendre. C'est pas le but. Un produit où la bonne contenance, elle est pas affichée. Ça, c'est pas possible non plus. Un produit qui est périmé avec une date. Voilà. Tous les produits que la marque ne mettrait pas elle-même sur le marché, on les vend pas. Mais après, une étiquette mal collée, ça a jamais fait de mal à personne. Packaging qui a changé non plus.
Oui, voilà.
Mais voilà, donc c'est plutôt ces produits-là qu'on s'occupe, et tous les produits où il y a des risques réglementaires ou sanitaires, c'est pas le but.
Ouais, effectivement, si par exemple on voit pas bien je sais pas la listing key qu'elle est un peu ça c'est pas des produits que vous pouvez
c'est pas des produits qu'on va vendre, et même
légalement, de toute façon, ils ne seraient pas vendus. Donc,
oui, c'est ça. Légalement, ils ne seraient pas vendus. Et ça me fait rebondir sur le fait qu'on informe beaucoup sur où est le problème, où est-ce qu'il se trouve, que ce soit sur l'image, sur notre texte.
Ouais.
L'idée, c'est vraiment de se dire, le produit, il est ici parce qu'il a un défaut au packaging. Le défaut, c'est que les textes sont écrits en trop petit.
Ok, d'accord.
Donc, ça, c'est vraiment un gage où on a envie de...
C'est transparent, quoi.
Voilà, transparent et même garantir l'image. Le consommateur qui va le recevoir, il ne va pas être déçu parce qu'il va être... trois fois au courant, on va dire, du défaut qu'il y avait sur le produit. Et ça justifie aussi la décote du prix. On n'est pas sur des soldes.
Est-ce que c'est un modèle qui peut s'exporter ?
Oui. Pour moi, oui. Aujourd'hui, on a testé le réseau français. Je pense bientôt peut-être européen, vu qu'on a une réglementation européenne avec une nouvelle loi qui va arriver aussi sur ça.
Une nouvelle loi ?
Le nouveau projet, je ne sais plus comment il s'appelle, où là, ce n'est pas l'interdiction de détruire, mais c'est l'obligation d'afficher l'avis de destruction aussi pour les industriels.
D'accord.
Du coup, je pense que ça, tout le monde va être un peu concerné par tout ça. Et même modèle que Too Good To Go, je pense que ça peut très vite s'exporter et s'implanter dans plusieurs pays.
Et là, pour l'instant, du coup, vous n'avez que des marques françaises sur le site.
Oui.
Ouais.
Pour l'instant, c'est que des marques que françaises. On a eu une marque suisse et une marque belge, mais principalement réseau français.
Ouais.
Il y a déjà quand même beaucoup de choses à faire.
Je pense. Et au fait, pourquoi grise ?
Alors, ça vient de green. En fait, on entendait beaucoup une beauté un peu green. Et je me suis dit, c'est bien le green, mais il faut faire un truc en plus. Et j'ai pensé au N qui devient un Z.
Ah, ok.
C'est quelque chose, on fait un peu bouger les choses.
Oui, ouais, pas mal.
Et ça veut dire gestion des invendus, revalorisation, écologie, économie et zéro déchet.
Ouais, pas mal. Et pourrais-tu terminer cette phrase ? Je n'aurais jamais pensé que...
J'aurais jamais pensé que j'enregistrerais un... un épisode avec toi, et j'aurais jamais pensé aujourd'hui que je travaillerais pour une idée que j'ai eue dans la tête il y a quelques années.
Bah écoute, comme quoi. Et une question que je t'ai pas posée, c'est quoi votre objectif à un an, deux ans ?
Notre objectif, c'est que les marques n'aient plus à se poser de questions, et que pour tous les produits qu'elles n'arrivent pas à revaloriser, elles aillent sur grise. Et notre rêve, c'est que le consommateur, avant d'acheter un produit neuf, vérifie s'il n'y a pas des produits qui peuvent les intéresser similaires sur la plateforme.
Ouais.
Ça serait de changer les habitudes de consommation en se disant, achetons un produit qui est déjà sur le marché avant d'en fabriquer un nouveau.
Et du coup, c'est un site, mais est-ce que c'est aussi une appli ?
Alors bientôt, c'est une appli, oui. À partir de 2024, ça va être une appli. Aujourd'hui, on avait vraiment envie de le tester sur site et voir un peu l'engouement. Et demain, c'est l'idée d'avoir l'application pour que tout le monde nous ait dans la poche et que ça soit plus facile parce que la majorité des gens sont sur leur téléphone.
Et de quoi vous avez besoin aujourd'hui ?
On a besoin de visibilité, on a besoin qu'il y ait de plus en plus de gens qui connaissent la plateforme, on a besoin de marques aussi qui agrandissent aussi nos réseaux de partenaires. Aujourd'hui, on en a plus d'une centaine,
mais ça peut être encore mieux
et ça peut être encore plus et voilà, de développer aussi les filières. Donc visibilité, marques et
développement des filières. Merci Noémie.
Merci beaucoup Chantal.
C'est déjà terminé. Le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, Parlez de Beauty Toaster à au moins deux personnes de votre entourage. Ça m'aiderait énormément. Enfin, n'oubliez pas, désormais, on se retrouve tous les vendredis, première heure. Alors, à la semaine prochaine !